Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, amis de Radio Galère, bonjour. Galère, et oui, confinement, plus de musée, plus de cinéma, plus de théâtre, et puis des anniversaires bien tristes. C'est aujourd'hui le 11 novembre, et pas très loin du 5 novembre, la catastrophe de la rue d'Aubagne. Plus d'expos photos, mais sur Internet, une galerie de photos sur les expulsés de l'habitat indigne. À aller voir des belles photos qui nous transmettent justement la dignité de ces gens malgré leurs difficultés. Et puis, vive la radio pour être ensemble. Odile est encore bien fatiguée, donc aujourd'hui, une émission avec Dominique et Françoise. Et pour échapper à la morosité, après notre conte de la lectrice il y a 2 semaines, un autre conte bien plus connu, peut-être un conte classique si on peut dire, Alice au Pays des Merveilles, ou plutôt Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc une œuvre reconnue comme une œuvre de la littérature pour la jeunesse, puisque c'est en effet l'aventure d'une petite fille dans le Pays des Merveilles, un monde imaginaire tout à fait extraordinaire. Mais aussi une œuvre où il y a beaucoup de non-sens, beaucoup d'irrationnel qui reste sans explication. Et la seule explication, c'est bien sûr que Alice vient rêve, que tout cela vient d'un monde onirique qui se construit pendant son sommeil et qui lui permette, de vivre en effet des aventures extraordinaires. Mais les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi un conte philosophique, satirique, essentiellement critique de la société de Lewis Carroll, cette société victorienne bien pensante dans laquelle il vivait. Certaines scènes sont très dérangeantes, elles relèvent pratiquement de la cruauté gratuite, et on pourrait se demander donc si ce sont des scènes de rêve ou si c'est la réalité sociale que Lewis Carroll dénonce. L'ambiguïté n'est jamais totalement levée. Alors, commençons. Allons retrouver Alice au bord de l'eau à Oxford.
Alice commençait à en avoir vraiment assez d'être assise au bord de l'eau près de sa sœur à ne rien faire. Elle avait jeté un coup d'œil une ou deux fois au livre que sa sœur lisait, mais il n'y avait ni image ni dialogue. Et à quoi bon un livre sans image ni dialogue? Donc, elle tournait et retournait ses pensées dans sa tête, autant qu'elle en était capable, car la chaleur du jour l'endormait et l'abrutissait. Pour savoir si le plaisir de cueillir une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et de cueillir les pâquerettes, quand soudain, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. Dévorée de curiosité, elle le suivit à travers champs et eut juste le temps de le voir s'engouffrer dans un vaste terrier sous la haie. L'instant d'après, Alice y descendait à sa suite, sans se demander le moins du monde comment elle en sortirait. Le terrier descendait à pic comme un tunnel, puis plongeait en coude si brusquement qu'Alice n'eut pas le temps de se demander un seul instant comment elle en sortirait quand elle se vit tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Chut, chut, chut. Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors Alice se remit à parler. Je crois bien que je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir. Dinah, c'était la chatte. J'espère qu'ils penseront à la soucoupe de lait à l'heure du thé. Dina chérie, comme je voudrais que tu sois avec moi ici-bas. Dans les airs, il n'y a pas de souris. J'en ai peur. Mais vois-tu, tu pourrais attraper une chauve-souris. C'est très proche de la souris. Mais je me demande, les chats mangent-ils les chauves-souris? C'est alors qu'Alice sentit le sommeil la gagner. Et elle continua à parler toute seule, dans un rêve éveillé. Les chats mangent-ils des chauves-souris? Les chats mangent-ils des chauves-souris? Et parfois, les chauves-souris mangent-elles des chats? Car voyez-vous, comme elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, l'ordre n'avait guère d'importance. Elle sentit qu'elle était en train de s'endormir pour de bon, et elle venait juste de commencer un rêve où elle marchait main dans la main avec Dina et lui demandait franchement « Bon Dina, dis-moi la vérité, as-tu déjà mangé une chauve-souris ?» Quand soudain, boum badaboum, elle s'étala sur un tas de branches et de feuilles mortes et la chute prit fin. Devant elle, dans un autre long passage, le lapin blanc disparaissait en s'y engouffrant à toute allure. Il n'y avait pas un instant à perdre. Alice partit comme le vent et eut juste le temps de l'entendre dire avant de tourner au coin « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle le suivait de près, mais passé le tournant, le lapin était devenu invisible. Elle se retrouva dans un hall très long et très bas, éclairé par une rangée de lampes suspendues au plafond. Soudain, une petite table de verre à trois pieds attira son attention. Il n'y avait rien dessus sauf une petite clé d'or, et Alice pensa d'abord qu'elle ouvrait l'une des portes du hall. Mais hélas, soit la serrure était trop grande, soit la clé était trop petite, en tout cas, elle n'en ouvrait aucune. Cependant, en revenant sur ses pas, elle remarqua un rideau bas qu'elle n'avait pas vu la première fois et qui cachait une petite porte d'une quarantaine de centimètres. Elle introduisit la petite clé dans la serrure et à sa grande joie, c'était la bonne. Alice ouvrit la porte et constata qu'elle menait à un étroit passage pas plus large qu'un trou de souris. Elle s'agenouilla et vit au bout du passage le plus joli jardin qu'on eût jamais vu. Elle avait une terrible envie de sortir de ce hall sombre et de vagabonder parmi ces parterres de fleurs aux couleurs brillantes, parmi ces fraîches fontaines. Mais elle ne pouvait même pas passer la tête dans l'embrasure. « Et même si je passais la tête, songea la pauvre Alice, à quoi bon sans les épaules ?»« Oh, je voudrais pouvoir me replier comme un télescope. Je crois que je pourrais, si seulement je savais par où commencer. » Comme il ne servait à rien de rester attendre devant la porte, elle revint vers la table dans le vague espoir d'y trouver une autre clé, ou du moins un manuel expliquant comment se replier comme un télescope. Cette fois, un petit flacon y était posé. Un flacon qui, c'est certain, n'y était pas avant, dit Alice. Et une collerette à son goulot portait l'inscription « Bois-moi » en grand et noble caractère. C'était bien joli de dire « Bois-moi », mais la sage petite Alice n'allait pas faire cela sans réfléchir. « Non, dit-elle, je vais d'abord regarder s'il y a écrit poison ou pas. » Car elle avait lu nombre de ces charmantes histoires où les enfants se brûlent, sont dévorés par des bêtes sauvages et autres, mésaventures, et tout ça parce qu'ils se dispensent de suivre les règles que leurs amis leur ont apprises. Néanmoins, comme il n'était pas écrit poison sur ce flacon, Alice s'aventura à y goûter et trouvant le breuvage très bon, il alliait les saveurs de la tarte aux cerises, de la crème anglaise, de l'ananas, du rôti, du caramel et du toast encore chaud, elle eut au fait de le finir. « Quelle drôle de sensation !» dit Alice. « Je dois être en train de me replier comme un télescope. » Au bout de quelque temps, constatant qu'il ne se passait plus rien, elle décida d'entrer dans le jardin sans plus attendre. Mais hélas pour la pauvre Alice, arrivée à la porte, elle se rendit compte qu'elle avait oublié la petite clé d'or et quand elle revint à la table pour la prendre, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus l'atteindre. Elle la voyait très bien à travers le verre et elle fit de son mieux pour escalader l'un des pieds, mais il était trop glissant. Alors, épuisée par ses tentatives, la pauvre petite s'assit et éclata en sanglots. « Voyons, ça ne sert à rien de pleurer comme ça, dit Alice. Se gourmandant, je te conseille d'arrêter tout de suite. » Elle avait l'habitude de se donner de très bons conseils, même s'il était rare qu'elle les suive. Bientôt, ses yeux tombèrent sur une petite boîte de verre posée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un très petit gâteau. Et dessus, en belle cursive, on pouvait lire « Mange-moi ». « Bon, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrai attraper la clé. Et s'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. Donc, je rentrerai dans le jardin, dans un sens ou dans l'autre, et lequel, je m'en fiche. » Elle en mangea un petit morceau et se demanda avec angoisse « Dans quel sens ? Dans quel sens ?» En se mettant la main sur la tête pour essayer de savoir dans quel sens elle allait. Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'elle ne changeait pas de taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui se produit quand on mange un gâteau. Mais Alice s'était tellement faite à l'idée que tout ce qui arrivait était censé être insensé, qu'il semblait ennuyeux et stupide que la vie suive le sens commun. Elle se mit donc au travail et eut au fait de finir le gâteau.
Les aventures ont donc commencé. L'expérience de changement de taille, c'est Alice qui, avant l'adolescence, anticipe les changements de son corps et le malaise qu'elle en éprouve. Nous allons la voir, cette Alice, ce n'est pas un personnage toujours sympathique. Elle est curieuse, bavarde, un peu niaise et agaçante. Mais son portrait est une bonne image d'un enfant très éveillé, avide de savoir, imaginatif, à qui les règles du monde adulte échappent souvent et qui s'en donne d'autres. Le voyage d'Alice, c'est aussi en un sens une quête identitaire, un genre de roman d'apprentissage, une façon de rompre avec l'enfance et les conventions figées des nursery rhymes, ces comptines anglaises qui, comme les françaises d'ailleurs, sont à la fois fantaisistes et pédagogiques. Alors, qu'arrive-t-il ensuite à Alice ?
À ce moment précis, sa tête heurta le plafond du hall. En fait, elle faisait à présent plus de 3 mètres. Elle se saisit aussitôt de la petite clé d'or et se hâta de gagner la porte du jardin. Pauvre Alice, c'est tout juste si elle put, allongée sur le flanc, glisser un œil par la porte. Mais jamais elle n'avait eu moins de chance de la franchir. Elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, » se dit-elle. « Une grande fille comme toi ?» Ça, elle pouvait le dire. « Rester pleurer comme ça ? Arrête immédiatement, j'ai dit immédiatement !» Mais elle continua de plus belle, versant des litres de larmes, jusqu'à ce qu'il y eût tout autour d'elle une large mare profonde de bien 10 centimètres et qui atteignait jusqu'au milieu de la salle. Quel drôle de troupe il formait là, rassemblés sur la rive. Les oiseaux, le plumage en bataille, les animaux, le pelage collé au corps, et les uns comme les autres dégoulinant, grognant, mal à l'aise. La première question à résoudre, bien sûr, c'était de savoir comment se sécher. Ils tinrent conseil à ce sujet, et au bout de quelques minutes, Alice trouvait tout à fait naturel de leur parler avec familiarité, comme si elle les avait connus toute sa vie. Très vite, le lapin aperçut Alice qui furetait de ça de là, et il la réprimanda. « Voyons, mais qu'est-ce que vous fabriquez là ? Rentrez immédiatement à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail, et que ça saute !» Alice fut si terrifiée qu'elle s'élança aussitôt dans la direction qu'il avait indiquée, sans chercher à rectifier la méprise. Elle s'était introduite dans une coquette petite chambre, avec devant la fenêtre une table sur laquelle, comme elle l'avait espéré, était posé un éventail et 2 ou 3 paires de gants de chevreau. Elle prit l'éventail et une paire de gants et s'apprêtait à quitter la chambre lorsqu'un petit flacon près du miroir attira son regard. Cette fois, il ne portait pas d'étiquette avec « Bois-moi » écrit dessus, mais elle le déboucha quand même et le porta à ses lèvres. « Je sais qu'il arrive forcément quelque chose d'intéressant, » se dit-elle. « Dès que je mange ou que je bois quoi que ce soit. Donc je vais bien voir quel effet va faire ce flacon. J'espère qu'il va me faire devenir grande, car j'en ai vraiment assez d'être si minuscule. » Et c'est ce qui se produisit. Et bien plus tôt qu'elle ne s'y attendait, avant d'avoir bu la moitié de la bouteille, elle sentit sa tête s'écraser contre le plafond et dut se pencher pour éviter que son cou ne se rompe. Elle reposa très vite la bouteille en se disant « C'est bien assez comme ça. J'espère que je vais arrêter de grandir. Je ne peux déjà plus passer la porte. Je regrette d'en avoir bu autant. » J'étais tellement mieux à la maison, pensa la pauvre Alice, quand on ne passait pas son temps à grandir, rapetisser et se faire donner des ordres par des souris et des lapins. Je regrette presque d'être descendue dans ce terrier de lapins. Et pourtant, c'est vraiment curieux. Vous savez, ce genre de vie, je me demande vraiment ce qui a bien pu m'arriver. Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses n'arrivait jamais et me voilà maintenant au beau milieu d'un conte. Il faudrait écrire un livre sur moi, oui, il faudrait. Quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis grande maintenant, ajouta-t-elle avec désolation. En tout cas, ici, il n'y a pas moyen de grandir davantage. Si je mange l'un de ces gâteaux, pensa-t-elle, il va sûrement me faire changer de taille. Et comme il ne peut pas me faire grandir encore, il va me faire rapetisser, je suppose. Elle avala donc l'un des gâteaux et s'émerveilla de constater qu'elle commençait déjà à rétrécir. Dès qu'elle fut à nouveau assez petite pour passer par la porte, elle sortit en courant de la maison et trouva une foule assez nombreuse de petits animaux et d'oiseaux qui l'attendaient dehors. Le pauvre petit lézard, Bill, se tenait au milieu, soutenu par deux cochons d'Inde qui lui administraient le contenu d'un flacon. Tous se précipitèrent sur Alice dès qu'elle apparut. Mais elle décampa à toute allure et se trouva bientôt hors d'atteinte dans un bois épais. « La première chose à faire, se dit Alice, errant à travers bois, c'est de retrouver ma taille normale. La seconde chose à faire, c'est de m'introduire dans ce joli jardin. Je crois que c'est la meilleure solution. » Un grand champignon, à peu près de sa taille, grandissait près d'elle. Et quand elle l'eut regardé par en dessous, de chaque côté et par derrière, il lui vint à l'esprit qu'elle pouvait tout aussi bien regarder ce qu'il y avait dessus. Elle se haussa sur la pointe des pieds et lança un coup d'œil par-dessus le bord du champignon. Immédiatement, son regard croisa celui d'un gros chenillon bleu qui était assis tout là-haut, les bras croisés, fumant tranquillement un long hookah, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce soit. Alice et le chenillon se toisèrent quelque temps en silence. Pour finir, le chenillon tira le hookah de sa bouche et s'adressa à elle d'une voix languissante et ensommeillée. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Ce n'était pas une entrée en matière très encourageante. Alice répondit un peu intimidée. « Je n'en sais trop rien, monsieur, en ce moment précis. En tout cas, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois que j'ai dû être changée plusieurs fois depuis. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le chenillon avec sévérité. « Expliquez-vous. »« Je crains de ne pas pouvoir me montrer plus clair, » répondit Alice avec une grande politesse. « Car pour commencer, je ne le comprends pas moi-même. À force d'être de tant de tailles différentes dans une même journée, on s'y perd. » Au bout d'une minute ou deux, le chenillon tira le hookah de sa bouche, bâilla une ou deux fois et se secoua. Puis, il descendit du champignon et s'éloigna en rampant dans l'herbe avec cette ultime remarque. « Dans un sens, il vous fera grandir et dans l'autre, rapetisser. » « Un sens de quoi ? Et l'autre sens de quoi ?» pensa Alice. « Du champignon, » dit le chenillon, comme si elle avait parlé tout haut. Et l'instant d'après, il avait disparu. Alice, pensive, resta à contempler le champignon pendant une bonne minute, essayant de distinguer un sens de l'autre. Et comme il était parfaitement rond, elle trouvait la question réellement difficile. Mais elle finit par l'entourer en étendant les bras le plus possible et elle en cassa un bout du bord de chacune de ses mains. « Et maintenant, lequel est lequel ?» se demanda-t-elle. « Ah, j'ai la tête enfin libre !» dit Alice, avec un ravissement qui se changea l'instant d'après en effroi, quand elle constata que ses épaules avaient disparu. Ce qu'elle découvrait en regardant vers le sol, c'était une immense longueur de cou qui semblait sortir comme une tige d'une mer de feuilles vertes au loin en contrebas. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore les morceaux du champignon dans sa main et elle se mit consciencieusement en devoir de grignoter un bout de l'un, puis un bout de l'autre, tour à tour, grandissant et rapetissant, jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé sa taille habituelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché sa taille habituelle, que ça lui fit d'abord un drôle d'effet. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et se mit à parler toute seule selon son habitude. « Allons, la moitié de mon plan est réalisée. Que ces champignons sont inquiétants. Je ne sais jamais ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé ma taille habituelle. Maintenant, il reste à pénétrer dans le joli jardin. Je me demande comment y arriver. » Ce disant, elle déboucha soudain dans une clairière où se trouvait une maisonnette haute d'un peu plus d'un mètre. « Qui peut bien habiter là ?» se demanda Alice. « Impossible d'entrer chez ces gens avec une taille pareille. Je vais leur faire une paire bleue. » Elle grignota donc un morceau du champignon qu'elle tenait dans la main droite et attendit de mesurer quelques 20 cm pour s'aventurer près de la maison.
Irrationnelle des transformations de son corps, Alice l'a accepté. Transformation de son corps, transformation de l'espace, irrationnel donc de l'espace. Mais elle va maintenant affronter l'irrationnel du temps du conte, le temps du rêve. Et se trouver avec ce temps bizarre face à des personnages qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et ces personnages fous, finalement, elle les supporte très mal.
Chat du chat-chat et chérie. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin suivre pour m'en aller ?
Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez vous rendre, dit le chat.
Où, ça m'est égal, dit Alice.
Alors peu importe le chemin que vous suivez, dit le chat,
du moment que j'arrive quelque part, ajouta Alice à titre d'explication.
Oh, ce sera forcément le cas, dit le chat, si vous marchez assez longtemps. Alice jugea que la chose était indéniable et risqua donc une autre question.
« Quelle sorte de gens vivent par ici ?»«
Dans cette direction-là, dit le chat, la désignant de sa part droite, vit un chapelier. « Dans cette direction-là, dit-il, en la désignant de l'autre patte, vit un lièvre de Mars. Choisissez qui vous voulez, ils sont fous tous les deux. »«
Mais je ne veux pas aller chez les fous, fit observer Alice. »«
Oh, vous n'avez pas le choix, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, vous êtes folle. »
« Comment savez-vous que je suis folle ? » dit Alice.
« Vous devez l'être, dit le chat, sinon vous ne seriez pas venue ici. » Elle n'était pas allée bien loin lorsqu'elle aperçut la maison du lièvre de Mars. Elle pensa que c'était sûrement elle, car les cheminées étaient en forme d'oreille et le toit était bordé de fourrure. C'était une maison si grande qu'elle préféra ne pas faire un pas de plus en avant avant d'avoir grignoté un morceau du champignon de gauche et de mesurer une soixantaine de centimètres de haut. Mais même alors, elle s'approcha avec appréhension car elle se disait « S'il était déjà en pleine crise de folie, je regrette presque de ne pas être allée voir chez le chapelier à la place. » Une table était dressée sous un arbre devant la maison et le lièvre de Mars et le chapelier prenaient le thé. Une marmotte était assise entre eux, dormant à poings fermés, et les deux autres s'en servaient comme d'un coussin. Ils s'y accoudaient et poursuivaient la conversation au-dessus de sa tête. La table était grande, mais toutes trois s'agglutinaient dans le même angle. « Pas de place, pas de place !» s'écrièrent-ils lorsqu'ils virent arriver Alice.
« Il y a beaucoup de place !» dit Alice avec indignation, et elle s'assit dans un vaste fauteuil à un bout de la table. « Prenez du vin, » dit le lièvre de Mars d'un ton engageant. Alice fit des yeux le tour de la table. Il n'y avait que du thé.
« Je ne vois pas de vin, » fit-elle observer.
« Il n'y en a pas, » dit le lièvre de Mars.
« Ce n'était pas très poli de votre part d'en offrir, » dit Alice avec colère.
« Ce n'était pas très poli de votre part de vous asseoir sans y avoir été invité, » dit le lièvre de Mars. « Je ne savais pas que c'était votre table, » dit Alice. « Elle est dressée pour bien plus que trois personnes. »
« Vos cheveux auraient besoin d'être coupés, » dit le chapelier. Il l'avait regardé avec une grande curiosité depuis un certain temps, et c'était ses premières paroles. Le lièvre de Mars prit la montre et l'examina d'un air sombre. Puis il la plongea dans sa tasse de thé et l'examina à nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire que sa première remarque. « C'était du beurre de premier choix, vous savez ?»
Alice avait regardé par-dessus son épaule avec beaucoup de curiosité. « Quelle drôle de montre » fit-elle observer. « Elle donne le jour du mois, mais elle ne donne pas l'heure. »«
Pourquoi donner l'heure ?» marmonna le chapelier. « Votre montre à vous. Donne-t-elle l'année ?»«
Bien sûr que non, » dit Alice sans hésiter. « Mais c'est que l'année reste la même pendant si longtemps. »
« Exactement comme pour ma montre à moi, » dit le chapelier.
Alice se sentit complètement prise de court. La remarque du chapelier lui semblait dénuée de sens, mais à n'en pas douter, c'était du bon français.
« Je ne vous comprends pas très bien, » dit-elle, aussi poliment que possible.
« Je crois que vous auriez mieux à faire de votre temps, » dit-elle, « que de le perdre à poser des devinettes sans réponse.
« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « vous ne parleriez pas de perdre mon temps. Ce n'est pas mon temps, mais le temps.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire, répondit Alice.
Bien entendu, dit le chapelier en secouant la tête avec mépris. Je suis même sûre que vous n'avez jamais parlé au temps.
Peut-être que non, répondit Alice avec prudence. Mais quand je fais de la musique, je sais qu'il faut battre le temps.
Ah, c'est donc ça, dit le chapelier. Le temps a horreur d'être battu. Mais si vous restiez en bons termes avec lui, il ferait faire au pendule à peu près tout ce que vous voulez.
Voilà, donc Alice est un peu perdue avec ses bizarres mesures du temps. Elle est toujours aussi un peu perdue dans ce bizarre pays des merveilles et elle poursuit son exploration. Dans le récit, ce sont en fait les différents niveaux de lecture qui, au-delà du conte, donnent l'intérêt. L'auteur Lewis Carroll était sous son nom réel de Charles Ludwig Dodgson, un mathématicien et un logicien reconnu de l'université d'Oxford. Dans Alice, il fait des farces, il crée des devinettes, il égare ses personnages et ses lecteurs dans des jeux, dans des mystères, il les replonge dans l'irréel et dans un monde souvent sans explication.
« Je ne remettrai jamais les pieds là-bas, » dit Alice, qui cherchait son chemin à travers bois. « Jamais je n'ai vu un goûter aussi stupide de ma vie. » Au moment où elle prononçait ces paroles, elle remarqua qu'un des arbres avait une porte qui permettait d'y entrer. « C'est très bizarre, » pensa-t-elle, « mais tout est bizarre aujourd'hui. Je pense que je ferais bien d'entrer tout de suite. » Et elle entra. Elle se trouva à nouveau dans un très long hall, tout près de la petite table de verre. « Bon, je vais mieux m'en tirer cette fois-ci, » se dit-elle, et elle commença par prendre la petite clé d'or et ouvrir la porte qui menait au jardin. Puis elle se mit à grignoter le champignon, elle en avait gardé un morceau dans la poche, jusqu'à mesurer une trentaine de centimètres. Elle descendit le petit passage, et là, elle se retrouva enfin dans le magnifique jardin, parmi les parterres aux brillantes couleurs et les fraîches fontaines. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Les roses qui y poussaient étaient blanches, mais trois jardiniers s'employaient avec zèle à les peindre en rouge. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, » dit Alice, surmontant sa timidité, « pourquoi vous êtes en train de peindre ces roses ?» Le 5 et le 7 ne dirent rien, mais regardèrent le 2. Le 2 commença tout bas. « Eh bien, le fait est, voyez-vous, mademoiselle, que ceci aurait dû être un rosier rouge et que nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à l'apprendre, on nous couperait la tête, vous savez. Donc, vous voyez, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant son arrivée pour que... » À ce moment-là, le 5, qui n'avait pas quitté l'autre bout du jardin de son regard inquiet, cria « La reine, la reine !» et les trois jardiniers se jetèrent aussitôt à plat ventre. On entendit un grand bruit de pas et Alice se retourna impatiente d'apercevoir la reine. 10 soldats venaient en tête, armés de piques. Ils avaient tous la même forme que les trois jardiniers, oblongs et plats, avec des mains et des pieds à leurs coins. Puis venaient les 10 courtisans. Ils portaient tous des vestes à carreaux et marchaient deux par deux, comme des soldats. Ensuite venaient les enfants royaux. Ils étaient au nombre de 10. Et les chers petits venaient en sautillant joyeusement, se donnant la main par paire. Tous étaient parés de cœur. Suivaient les invités, surtout des rois et des reines, et parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait très vite, avec nervosité, souriait à tout ce qui se disait et passait sans la remarquer. Le valet de cœur les suivait, portant la couronne du roi sur un coussin de velours pourpre. Et enfin, fermant cet imposant cortège, venaient le roi et la reine de cœur. Quand le cortège se retrouva en face d'Alice, ils s'arrêtèrent tous, la regardèrent et la reine dit avec sévérité « Qui est-ce ?» Elle le dit au valet de cœur qui s'inclina et sourit pour toute réponse. « Imbécile !» dit la reine, secouant la tête avec impatience. Puis se tournant vers Alice, elle poursuivit « Comment vous appelez-vous, enfant ?»« Je m'appelle Alice, s'il plaît à votre majesté, » dit Alice très poliment. Mais elle ajouta par soi « Quoi ? Ce n'est qu'un jeu de cartes, après tout. Je n'ai pas à en avoir peur. » Fort bien, hurla la reine. Savez-vous jouer au croquet ? Les soldats gardèrent le silence et se tournèrent vers Alice, car la question de toute évidence lui était adressée. Oui, hurla Alice. Alors venez, rugit la reine. Et Alice se joignit au cortège, en se demandant bien ce qu'il allait se passer ensuite. C'est une très belle journée, dit une voix timide à ses côtés. Elle marchait près du lapin blanc, qui scrutait son visage avec angoisse. Alice pensa qu'elle n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi curieux de toute sa vie. Ce n'était que sillons et tranchées. Les balles de croquet étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants roses vivants, et les soldats devaient se plier en deux, appuyés sur les pieds et les mains pour former les arceaux. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils se querellaient à tout bout de champ et se disputaient les hérissons. Peu de temps après, la reine piqua une colère terrible et elle errait, trépignant et hurlant. « Elle, qu'on lui coupe la tête !» ou « Lui, qu'on lui coupe la tête !» à peu près toutes les minutes. Alice commença à se sentir mal à l'aise. Elle ne s'était encore jamais disputée avec la reine, mais elle savait qu'à tout moment cela risquait d'arriver. Alors, pensa-t-elle, « Qu'est-ce que je vais devenir ? Ils sont terriblement portés sur la décapitation !» C'est un miracle qu'il en reste encore quelques-uns en vie. La reine ne connaissait qu'un seul moyen de résoudre les problèmes, petits ou grands. « Qu'on lui coupe la tête !» dit-elle sans même se retourner.
Voilà, c'est la grande aventure, puisque cette fois, Alice est face à la reine, au roi, et à des scènes totalement absurdes, mais également bien cruelles. La cruauté de certaines situations ou certains personnages, c'est aussi la cruauté de la société victorienne. On va le voir un petit peu plus loin. Une société particulièrement dure pour les plus démunis, les enfants, les femmes. Le caractère absurde ou loufoque même de certaines scènes permet d'échapper au poids de la réalité, aux règles rigides d'une société d'adultes très contraignante. Et Alice, l'enfant, est souvent comme un intercesseur, mais un intercesseur pas toujours victorieux. On va prendre une petite pause musicale et on verra la suite des aventures d'Alice.
On s'est croisé au hasard, c'est fou, il est si tard. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es devenu? Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverser le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées si on allait faire la fête. Je ne connais pas ton nom, mais je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver.
Et l'amour,
voyage sur les bords, le naufrage. Ma vie est un peu creuse. Et toi, es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Voyager, oh, oh, oh. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Voyager.
Traverser, traverser le passé. Renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps.
Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Voyager, oh, oh, oh. Et l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Voyager.
Les merveilles de Juliette, les merveilles d'Alice, tout cela dans un monde de fantaisie, peut-être un petit peu de folie. Et autour d'Alice, la folie de la reine et de sa cour. Alors, est-ce une réalité ou n'est-ce finalement pas si sérieux? Peut-être qu'il y a dans les épisodes qui se succèdent des épisodes de critique, en effet, du pouvoir, mais aussi des épisodes de pure fantaisie. Donc à partir de là, alterne vraiment des scènes de vraie cruauté sociale, mais aussi des scènes de délire et d'amusement qui seraient presque comme de la comédie musicale. Continuons.
Durant toute la partie, la reine n'arrêta pas de se quereller avec les autres joueurs et de crier « Lui, qu'on lui coupe la tête !» ou « Elle, qu'on lui coupe la tête !» Et comme ceux qu'elle condamnait étaient arrêtés par les soldats, qui devaient bien sûr pour se faire cesser d'être des arceaux, au bout d'environ une demi-heure, il n'y avait plus d'arceaux et tous les joueurs, à part le roi, la reine et Alice, étaient arrêtés et condamnés à mort. Alors la reine, très essoufflée, abandonna la partie et dit à Alice « Avez-vous déjà vu la tortue Toc ?»« Non, » dit Alice. Et je ne sais même pas ce que c'est qu'une tortue Toc. C'est ce dont on fait la soupe à la tortue, dit la reine. Je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais entendu parler, dit Alice. Alors venez, dit la reine. Elle vous racontera son histoire. Comme elle s'éloignait, Alice entendit le roi qui disait à voix basse à toute la compagnie. Vous êtes tous graciés. Allons, ça c'est une bonne chose, se dit-elle. Le nombre des exécutions que la reine avait ordonnées lui avait fait beaucoup de peine. La tortue Toc soupira profondément et se passa le dos d'un aileron sur les yeux. Elle regarda Alice et tenta de parler, mais durant une ou deux minutes, les sanglots l'étranglèrent. « Comme une arête qu'elle aurait dans la gorge, » dit le griffon. Et il se mit à la secouer et à lui taper dans le dos. Enfin, la tortue Toc retrouva sa voix et les joues ruisselantes de larmes reprit. « Peut-être n'avez-vous pas vécu très longtemps sous la mer. Non, dit Alice. Peut-être n'avez-vous jamais été présentée à un homard. Elle allait dire, j'en ai mangé une fois. Mais elle se reprit en hâte et dit, non, jamais. Vous ne pouvez donc pas savoir à quel point le quadrille des homards est une chose merveilleuse. Non, du tout, dit Alice. Qu'est-ce que c'est comme danse? Eh bien, dit le griffon, pour commencer, on se met sur un rang le long du rivage. Sur deux rangs, cria la tortue Toc. Les phoques, les tortues, les saumons, tout le monde. Ensuite, quand on a déblayé les méduses. Ce qui prend pas mal de temps, en général, interrompit le griffon. On fait deux pas en avant. Avec un homard pour cavalier, cria le griffon. Ça va de soi, dit la tortue Toc. Deux pas en avant, révérence. On change de homard et on revient dans le même ordre, poursuivit le griffon. Après ça, vous savez, reprit la tortue Toc, on jette les homards, cria le griffon en bondissant dans les airs, aussi loin qu'on peut dans la mer. Et on les suit à la nage, cria le griffon. On fait un saut périlleux dans la mer, cria la tortue Toc, qui ne tenait plus en place. On change à nouveau de homard, hurla le griffon à tue-tête. Retour à terre, et c'est tout pour la première figure, dit la tortue Toc, baissant soudain la voix, et les deux créatures qui n'avaient pas cessé de sauter comme des folles se rassirent toutes tristes, toutes tranquilles, et regardèrent Alice. Ça doit être une très jolie danse, risqua Alice. Je veux dire ce que je dis, répondit la tortue Toc sur un ton offensé, et le griffon ajouta, allons. Racontez-nous vos aventures à vous. Je pourrais vous raconter mes aventures depuis ce matin, dit Alice, un peu intimidée. Mais ça ne sert à rien de remonter jusqu'à hier, parce qu'alors je n'étais pas la même personne. Expliquez-nous tout ça, dit la tortue Toc. Non, non, les aventures d'abord, dit le griffon, avec impatience. Les explications prennent toujours un temps épouvantable. Ces créatures n'arrêtent pas de vous donner des ordres et de vous faire réciter vos leçons, pensa Alice. Autant vaudrait aller être à l'école. Alice ne dit rien. Elle s'assit, le visage dans les mains, en se demandant si les choses redeviendraient un jour normales. Tous en cœur, hurla le griffon, et la tortue Toc venait juste de lui faire écho quand un cri « Le procès commence !» retentit au loin. « Venez !» hurla le griffon, et prenant Alice par la main, il se mit à courir sans attendre la fin de la chanson. « De quel procès s'agit-il » demanda Alice en courant, hors d'haleine. Mais le griffon se contenta de répondre « Venez !» en courant de plus belle. Le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône quand ils arrivèrent, et une foule importante se pressait autour d'eux. Des oiseaux et des animaux de toutes sortes, ainsi que le jeu de cartes au grand complet. Le valet leur faisait face, enchaîné, encadré de deux soldats qui le gardaient. Et près du roi se tenait le lapin blanc, une trompette dans une main, un rouleau de parchemin dans l'autre. Au beau milieu du tribunal se dressait une table avec un grand plat qui contenait des tartes. Ces tartes avaient l'air si délicieuses qu'Alice en eut l'eau à la bouche. « J'aimerais bien que le procès soit fini, pensa-t-elle, et qu'on passe au buffet. » Mais cela semblait peu probable. Elle se mit donc à regarder autour d'elle pour passer le temps. Alice n'était jamais entrée dans un tribunal, mais elle avait lu des choses à ce sujet dans les livres, et elle ne fut pas peu fière de s'apercevoir qu'elle savait nommer presque tout ce qu'elle voyait. « Ça, c'est le juge, se dit-elle, ça se voit à sa grande perruque. » Le juge, au fait, c'était le roi. Et comme il portait sa couronne sur sa perruque, il n'avait pas l'air à son aise du tout, et ça n'avait certes rien de saillant. Et ça, c'est le banc du jury, pensa Alice, et ses 12 créatures, elle était obligée de parler de créatures, voyez-vous, car certains étaient des animaux et d'autres des oiseaux. Je suppose que ce sont les membres du jury. Elle se répéta ce dernier mot 2 ou 3 fois de suite, non sans fierté, car elle pensait, et avec raison, que rares étaient les petites filles de son âge qui savaient ce que tout cela voulait dire, et néanmoins, jurer aurait aussi bien fait l'affaire que membre du jury. Héros, lisez l'acte d'accusation, dit le roi. À ces mots, le lapin blanc souffla 3 fois dans la trompette et déroula le rouleau de parchemin et lut ce qui suit. La reine de cœur fit des tartes par un beau jour d'été. Le valet de cœur vola ses tartes. Les voilà envolées. À ce moment précis, Alice éprouva une sensation étrange qui lui fit très peur jusqu'à ce qu'elle comprenne ce que c'était. Elle s'était remise à grandir et elle pensa d'abord se lever et quitter le tribunal. Mais après réflexion, elle décida de rester où elle était aussi longtemps qu'elle en aurait la place. Alice regarda le lapin blanc qui passait péniblement la liste en revue, se sentant de plus en plus curieuse de savoir à quoi ressemblait le témoin suivant. « Car ils n'ont pas réuni beaucoup de preuves encore », se dit-elle. Imaginez sa surprise quand le lapin blanc lut tout haut, en forçant sa voix de fossé, le nom. « Alice !»« Présente !» cria Alice, oubliant complètement dans l'émotion du moment combien elle avait grandi depuis quelques minutes, et elle se leva avec une telle hâte qu'elle culbuta le banc des jurés avec le bord de sa jupe, les renversant sur la foule en contrebas où ils s'affalèrent dans la plus grande pagaille, ce qui lui rappela un bocal de poisson rouge qu'elle avait malencontreusement renversé la semaine précédente. « Oh, je vous demande pardon !» Le lapin blanc chaussa ses lunettes. « Par où dois-je commencer, Majesté ? » demanda-t-il. « Commencez par le commencement, dit le roi avec gravité. Continuez jusqu'à la fin et là, arrêtez-vous. » Un silence de mort se fit dans le tribunal, tandis que le lapin blanc lisait les vers suivants. « Qu'il ignore sa préférence, qu'à jamais ce décret demeure par cette défense notre commun secret. » « C'est la preuve la plus importante que nous ayons entendue jusqu'à présent, dit le roi en se frottant les mains. Alors, les mots ne sont pas taillés pour vous, dit le roi en se tournant vers le tribunal avec un sourire. Il y eut un silence de mort. « Calembour !» ajouta le roi d'un ton furieux, et tout le monde rit. « Que le jury délibère, dit-il, pour au moins la 20e fois dans la même journée. « Non, non !» dit la reine. « La sentence d'abord, le verdict ensuite. »« Farce et non-sens !» dit Alice tout haut. « Quelle idée de prononcer la sentence d'abord !»« Tenez votre langue !» dit la reine devenant cramoisie. « Non !» dit Alice. « Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine, à gorge déployée. Personne ne bougea. « Mais on s'en moque de vous !» dit Alice. Elle avait entre-temps retrouvé toute sa taille. « Vous n'êtes rien qu'un jeu de cartes !» À ces mots, le jeu de cartes tout entier s'éleva dans les airs et s'abattit sur elle. Elle poussa un petit cri, moitié terreur, moitié colère, essaya de les chasser et se retrouva couchée au bord de l'eau, la tête sur les genoux de sa sœur, laquelle ôta avec douceur les feuilles mortes qui voltaient des arbres proches jusqu'à son visage. « Réveille-toi, ma petite Alice, » dit sa sœur. « Eh bien, ce que tu as dormi longtemps... » L'herbe haute frissonna à ses pieds comme le lapin blanc disparaissait à toute allure. La souris terrifiée barbotait dans la mare voisine. Elle entendit le tintement des tasses de thé, de l'interminable goûter du lièvre de Mars et de ses amis, et la voix aiguë de la reine condamnant à mort les pauvres invités. Elle restait assise, les yeux clos, se croyant presque au pays des merveilles, tout en sachant qu'il lui suffirait de les rouvrir pour que tout redevienne l'ennuyeuse réalité. Seul le vent ferait frissonner l'herbe, seule l'ondulation des roseaux ferait se rider le courant, le tintement des tasses de thé se changerait en sonnaille des moutons, les cris aigus de la reine en appel du petit berger.
C'est la fin des aventures d'Alice. Elle est revenue au bord de l'eau, au bord de la rivière, à Oxford. Bien des énigmes ont résisté à l'interprétation cohérente, et on aurait pu, bien sûr, dans un monde réel, chercher une interprétation. Mais dans ce monde du rêve, qui est bien explicité en tant que tel à la fin, il ne reste plus qu'en effet des suppositions, des inventions linguistiques aussi, puisque les gens du pays des merveilles malmènent les conventions de la langue usuelle, comme ils malmènent les conventions de la loi, les conventions de la société. Dans le monde d'Alice au pays des merveilles, rien n'est prévisible, rien n'est immuable, comme rien n'est immuable dans le monde. « Nous sommes tous fous ici », a dit le chat du Cheshire. Et au cours de ses aventures, Alice a découvert un monde qui brise les conventions, qui viole les lois, qui fait fi de tout bon sens, un monde où temps et espace se déforment, un monde contraire à celui de l'époque victorienne, bien sûr, mais au monde qui en a hérité aussi, à notre monde à nous. Donc finalement, qu'est-ce qui est préférable? Les horreurs du monde d'Alice, les horreurs de notre monde, ou l'évasion qu'on peut trouver dans les contes, et en particulier au Pays des Merveilles?
Marchez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. De 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café.
C'était donc Yves Simon qui, dans les années 60, nous faisait partager non pas le pays des merveilles d'Alice, mais le pays des merveilles de Juliette, celui des jeunes qui partaient loin, soit dans l'espace, soit sur des produits un petit peu illicites. Donc c'est aussi une des nombreuses adaptations d'Alice, puisque Alice, son pays des merveilles, créé par Lewis Carroll, a eu de très très nombreuses adaptations dans des albums pour enfants, bien sûr, dans des films, dans des dessins animés. Et c'est vrai que le message un petit peu séditieux ou un petit peu revendicatif de Lewis Carroll est bien souvent passé sous silence dans les adaptations, mais il ne faut pas l'oublier. Lewis Carroll, il a voulu écrire vraiment un conte philosophique, un peu comme l'avait fait Jonathan Swift au siècle précédent avec les voyages de Gulliver. Partir ailleurs, distordre le temps et l'espace, c'est une des façons que les philosophes des siècles précédents nous ont léguées pour échapper aux horreurs du monde, on l'a dit, mais aussi pour essayer de construire des utopies un peu meilleures et un peu positives. Donc on va vous laisser là-dessus. La prochaine fois, la semaine prochaine, on ne sait pas encore trop ce qu'on va choisir de vous présenter. C'est Odile qui va sans doute décider. On va la voir pendant cette semaine et on vous présentera donc sur sa suggestion un autre ouvrage mercredi prochain. Bonne semaine, à bientôt.
Au revoir.
Mon Dieu! A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,